Radio Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Des femmes kamikazes pendant l'été au Nigeria, c'est suffisamment rare pour que l'on se penche sur ce phénomène né au Liban dans les années 70 et exporté depuis en Irak ou encore dans le Caucase. Aboubakar al-Baghdadi n'est pas mort, pourtant une vidéo montage montrant le faux cadavre du chef des djihadistes de l'État islamique circule depuis quelque temps sur Internet. Avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire, nous lirons les journaux israéliens et la presse arabe. L'individu utilisé comme arme pour détruire l'autre, on a connu cela avec les kamikazes japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. On connaît également ce phénomène ces dernières années en Palestine, au Liban ou en Irak, sans oublier les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. À chaque fois, ce sont des hommes qui accomplissent ces actions suicides dans lesquelles ils laissent la vie. Pourtant, ces dernières années, on a vu des femmes, parfois très jeunes, devenir à leur tour des combattants martyrs. Carole André Dessorne, bonjour.
Bonjour.
Auteur du livre « Les femmes martyrs dans le monde arabe », édité chez le Ramadan. Tout d'abord, on le voit dans l'actualité récente avec plusieurs cas cet été de femmes kamikazes au Nigeria. Ce phénomène des bombes humaines n'est pas l'apanage du Moyen-Orient.
Non, bien que c'est commencé effectivement, alors l'utilisation des femmes martyrs dans les opérations suicides ont été utilisées pour la première fois au Liban, dans une logique de lutte asymétrique contre l'occupant israélien. Après effectivement, ça a glissé vers la Palestine et plus tardivement en Irak, mais c'est un phénomène qui s'est également poursuivi par exemple au Sri Lanka, dans la guerre civile avec les tigres tamouls. C'est une arme, une stratégie qui a été utilisée, mais également on a pu voir ça avec le PKK, le parti kurde indépendantiste en Turquie, et également les fameuses veuves noires en Tchétchénie, toujours dans la logique de lutte asymétrique.
Donc c'est toujours au départ un mouvement qui a un caractère nationaliste.
Au départ, oui, c'est effectivement quand même l'élément qui ressort le plus, c'est-à-dire donc une occupation ou alors un sentiment d'occupation vécu comme tel, et puis effectivement un recours à une arme qui devient stratégique et qui permet d'avoir aussi une couverture médiatique et surtout qui perturbe l'adversaire, bah, parce que c'est, on va dire, contre nature, entre guillemets, puisqu'on n'imagine pas la femme engagée dans ce type de stratégie. Et puis, nous sommes dans des sociétés patriarcales, donc là, la femme franchit un pas supplémentaire.
Est-ce qu'il y a des différences de motivation entre le Liban, par exemple, la Palestine et l'Irak aujourd'hui ?
Le Liban, ça a été véritablement donc une lutte contre l'occupant israélien en même temps qu'il y avait cette guerre civile aussi. C'est une stratégie qui a été utilisée principalement, même uniquement, par les partis séculiers, des partis de gauche. C'est-à-dire que c'est un mouvement, ces opérations suicides ont été introduites par le Hezbollah, mais ce sont les hommes qui ont été concernés, et l'utilisation des femmes et l'exclusivité des partis séculiers. Et ça va être le cas aussi en Palestine au départ, puisque la première, Wafa Idris, a mené une opération dans le cadre donc des martyrs d'Al-Aqsa, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, qui étaient la branche armée du Fatah, donc parti considéré comme séculier. Et c'est après que ça va glisser vers le religieux, c'est-à-dire c'est après qu'on va avoir effectivement des brigades religieuses qui vont s'emparer de cette lutte stratégique. Et pour ce qui est de l'Irak, c'est essentiellement les mouvements liés à Al-Qaïda.
Alors, vous l'avez dit, c'est contre nature qu'il y ait des femmes kamikazes, des femmes martyrs. En général, c'est l'apanage des hommes. Qu'est-ce qui fait qu'elles vont passer à l'acte? Quelles sont leurs motivations? Les motivations, évidemment, nationalistes, mais sur un plan plus personnel, comment sont-elles incitées à cela?
Alors, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que la femme est capable d'engagement tout autant que l'homme. Ça, on l'a vu au cours des différents conflits. La violence, ce n'est pas non plus l'exclusivité de l'homme, mais c'est vrai que là, elle franchit en tout cas cette frontière qui était l'exclusivité des hommes. Et les motivations sont approximativement les mêmes. Effectivement, une occupation mal vécue, une violence, c'est aussi un désir de retrouver une fierté perdue, l'impression d'avoir son territoire qui a été bafoué, humilié. C'est aussi une façon de reprendre son destin en main, à travers la mort. Et puis, finalement, s'il y a une grande différence entre les hommes et les femmes, c'est que la femme sera peut-être quand même beaucoup plus, on va dire, marquée par une forme d'empathie qui est plus développée que chez l'homme, et donc plus sensible, en tout cas, peut-être encore à la cause nationale. Il y a aussi le désir de vengeance, parfois, quand une femme a perdu un membre de sa famille. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose, je dirais, c'est la principale, peut-être, différence, bien que la vengeance existe aussi chez les hommes, mais l'empathie, c'est quand même quelque chose qu'on trouve plus chez les femmes.
Mais alors, retrouver un peu sa dignité à travers des actes qui sont des actes définitifs, on a du mal à comprendre. Est-ce que ça veut dire que ces femmes vivaient de façon extrêmement difficile? Je pense à l'Irak, par exemple. Elles ont perdu toute potentialité personnelle, c'est cela?
Alors, il y a ça. Il y a le fait aussi que certaines femmes se sont retrouvées seules, complètement isolées, donc dans un pays où la violence était quasiment quotidienne. Et donc, pour certaines, il fallait aussi pouvoir trouver, en tout cas, peut-être un réconfort dans l'au-delà. Pas toutes, hein, mais chez certaines. Peut-être aussi une protection. Donc, ce qui explique aussi pourquoi certaines femmes en Irak, qui étaient plus ou moins liées à Al-Qaïda, se sont chargées du recrutement. C'est-à-dire qu'elles ont repéré, là aussi, des femmes qui étaient en position d'isolement, peut-être aussi un peu plus faibles, en tout cas psychologiquement, pour les embarquer dans cette lutte.
Il faut savoir qu'en Irak, les femmes veuves, par exemple, n'ont plus aucun droit.
Voilà, tout à fait. Donc,
Et on dit aussi que des groupes ont organisé des viols collectifs de jeunes femmes pour les recruter.
Tout à fait.
C'est cela?
Tout à fait. Justement, on a ces cas-là. On a eu deux femmes qui ont été arrêtées et qui étaient chargées de ce recrutement. Certaines ont organisé donc des viols contre ces femmes et ensuite leur proposaient en réparation d'offrir leur vie, ce sacrifice pour, on va dire, sauver un honneur qui a été perdu.
Donc ce sont d'autres femmes qui recrutaient ces femmes-là pour devenir des martyrs.
On a eu ces cas-là, tout à fait, en Irak. Mais ça, c'est vraiment propre à l'Irak. C'est vraiment propre à l'Irak. Et l'Irak, la grande différence, si vous voulez, c'est qu'on est dans une logique non pas de lutte contre un occupant, là, mais c'est de lutte contre l'autre communauté musulmane. Parce que les opérations ont été principalement menées donc, par des femmes sunnites contre la communauté chiite.
Mais à l'heure aujourd'hui, il y a assez peu de femmes martyrs, celles du Nigeria pendant l'été font exception. Pourtant, il y a la guerre en Syrie et en Irak. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas ?
Faut espérer qu'il n'y en ait pas. Ça, c'est la première chose. Ça prend toujours un certain temps, c'est-à-dire que quand il y a ce genre de phénomène, plus le conflit va s'enliser, plus il y a un risque, effectivement, qu'à terme, la femme s'engage dans ce type de sacrifice. Il y a eu donc des opérations suicides menées par des hommes, notamment en fin d'année dernière. Pour l'instant, on n'a pas encore observé de femmes dans ce genre d'opération.
Un groupe djihadiste est très actif en Syrie comme en Irak. C'est l'État islamique, l'EIL ou Daesh en arabe. Pensez-vous que des femmes kamikazes puissent émerger de ce côté-là ?
C'est possible, effectivement. Alors, ce qui est important, c'est donc cet EIL, donc cette armée, enfin oui, ce groupe de l'Irak et du Levant, est quand même principalement composé de combattants étrangers. Donc, il est possible dans ces cas-là qu'on voit des femmes d'origine étrangère rejoindre ces rangs-là. Mais il faut faire attention parce que, d'abord, il ne faut pas généraliser. Ça reste aussi un épiphénomène. Ça, c'est important. Donc, il est possible, effectivement, qu'il y ait un ou deux cas comme ça. Mais de là à généraliser, il faut savoir qu'au départ, les groupes islamistes sont contre l'entrée des femmes dans ce type d'opération. Ils l'ont fait pour des raisons stratégiques aussi.
Même, vous l'avez dit, effectivement, dans la presse, on relate assez peu de cas ces dernières années, depuis, on va dire, 3 à 4 ans. Mm-hmm. Malgré tout, il y en a quelques-uns, notamment dans le sud de la Russie, dans le Caucase. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a peu à peu un transfert de ces femmes qui ont des revendications nationalistes vers des femmes qui ont des revendications essentiellement religieuses, puisque dans le Caucase, les gens ne sont pas arabes, par exemple?
Alors, la religion, c'est un habillage. Il faut savoir que, quand même, les principales causes restent des causes politiques associées à cette lutte asymétrique. Et là, la Tchétchénie est un exemple puisque, donc pour la Russie, ça fait partie de la Fédération de Russie. Pour une partie des Tchétchènes, ils sont dans une lutte et souhaitent leur indépendance. Donc ça reste, on va dire, dans cette dimension-là. Le caractère religieux, c'est quelque chose qui va se greffer en plus. C'est, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été du tout la principale raison.
C'est peut-être l'élément qui permet de recruter.
Voilà, ça peut être un facilitateur.
Merci Carole-André Dessorne, membre du CADIS, le Centre d'analyse et d'intervention sociologique. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Les femmes martyrs dans le monde arabe, Liban, Palestine et Irak », édité chez L'Harmattan.
Merci à vous.
Les observateurs de France 24 nous envoient chaque jour, tout au long de l'année, leurs informations insolites, humoristiques, décalées ou révoltées, c'est selon. Bonjour, c'est Golène Malter.
Bonjour.
Vous êtes l'une des journalistes qui collecte ces informations et comme chaque mois, vous en avez sélectionné trois pour Orient Hebdo. Pour commencer, cette tentative de manipulation sur les réseaux sociaux en pleine offensive contre Daesh, l'État islamique en Irak.
Tout le monde a entendu parler d'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'autoproclamé État islamique, ce groupe djihadiste qui a pris le contrôle d'une bonne partie du nord de l'Irak et qui est devenu l'ennemi numéro un du gouvernement irakien. Eh bien, c'est lui qui a fait l'objet d'une tentative de désinformation sur les réseaux sociaux. Des rumeurs sur sa mort ont circulé sur Twitter. C'était juste après que le gouvernement de Bagdad a annoncé qu'un de ses conseillers avait été tué dans une frappe aérienne. Alors des internautes en ont donc profité pour faire croire que Baghdadi était lui aussi mort dans la même attaque. Et comment ont-ils fait ça? Eh bien en diffusant tout simplement une photo de son cadavre.
Une photo manipulée donc.
Alors évidemment, il s'agit d'un photomontage. Même les autorités américaines qui sont engagées dans des frappes aériennes sur la zone ont démenti la rumeur de la mort de Baghdadi. Alors c'est un peu morbide, mais les internautes ont même retrouvé la photo du cadavre sur laquelle a été rajoutée la tête de Baghdadi. Elle avait été prise en 2013 en Syrie et il s'agit du corps d'un combattant albanais. Les auteurs de la photo avaient même pris le soin de rajouter une montre au bras du faux cadavre de Baghdadi pour mieux tromper les internautes, puisque lors de la dernière apparition publique du chef de l'État islamique, sa montre avait été très remarquée. Mais les internautes ont une fois de plus déjoué la manipulation.
Ouais, comme quoi il faut se méfier sur Internet. Alors vous nous emmenez maintenant en Égypte, où une jeune femme a sorti sa caméra pour dénoncer le harcèlement sexuel.
Oui, et pas n'importe quelle caméra. Pour être la plus fidèle à ce que peut ressentir une femme qui se balade seule dans un quartier animé du Caire, elle a choisi de filmer avec la caméra cachée de son téléphone portable, en faisant semblant de téléphoner. Et le résultat est plutôt inquiétant. La quasi-totalité des hommes qu'elle croise la regarde avec insistance, la frôle volontairement, d'autres lui lancent des remarques déplacées, la sifflent, une atmosphère qu'elle décrit comme très pesante, et on le conçoit très bien. Alors cette vidéo, c'est en fait une nouvelle preuve que le harcèlement sexuel reste un véritable fléau en Égypte, où 83% des femmes disent avoir été victimes de propos obscènes ou de gestes déplacés de la part de passants masculins.
Oui, sujet dont on parle régulièrement dans Orient Hebdo. Alors manifestement, Ségolène, il n'y a pas qu'au Caire, qu'on n'est pas tranquille. À la mosquée aussi, il faut garder l'œil.
Oui, changement de décor. On est à Médine, dans la deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque, qui abrite le tombeau du prophète visité par plusieurs millions de musulmans chaque année. Et ce sont les autorités saoudiennes qui ont diffusé un montage de plusieurs vidéos. On y voit des voleurs dans une mosquée commettre toutes sortes de petits larcins, voler des téléphones et cacher le butin dans leurs chaussures et essayer de filer en douce. Alors la plupart du temps, ils ciblent des pèlerins assoupis, comme quoi même dans les lieux saints, on n'est pas à l'abri des pickpockets.
Merci Ségolène Malter. On peut retrouver ces informations et les observateurs sur le site observers.france24.com.
Merci.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour Eric.
Alors Alexandre, la visite de François Hollande en Irak, mais surtout la conférence de Jeddah pour combattre Daesh font la une des journaux panarabes.
Oui, la visite du président français est vue comme un réchauffement, même s'il est tardif, des relations entre Paris et Bagdad. Mais c'est évidemment Daesh qui est au centre des préoccupations des journaux, qui estime que la réunion de Jeddah et celle de Paris, qui aura lieu bientôt, vise à élaborer une stratégie pour combattre l'État. Alors le qualificatif islamique est maintenant banni dans les médias arabes, donc l'État, donc Daesh, doit être combattu militairement, mais aussi politiquement et surtout idéologiquement. Alors un éditorialiste estime que ce qui compte, ce n'est pas l'extension territoriale de Daesh, mais son expansion dans les esprits d'une portion non négligeable de jeunes musulmans. Alors, il y a des Occidentaux dans les rangs de Daesh, souligne les journaux, mais il y a surtout des Arabes, et ces derniers sont une bombe à retardement qui risque d'exploser lors de leur retour chez eux.
Alors justement, Michel Paul, cette coalition contre l'État islamique dont on vient de parler provoque l'inquiétude en Israël.
Oui, les commentateurs le font remarquer, Daesh ne présente pas véritablement une menace pour Israël, mais malgré tout, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'empare du sujet. Il réclame de nouveaux budgets pour la défense, pour lutter contre le terrorisme, un titre que l'on retrouve dans les journaux de ce week-end. Les Israéliens sont inquiets de l'allure que prend la coalition anti-État islamique que le président Obama met sur pied. On peut résumer la situation, Eric, en quelques mots en anglais dans le texte. Iran in, Israël out. Et dans la presse, on trouve une autre citation de Netanyahou, ne pas renforcer Téhéran pour affaiblir Daesh. Dans un éditorial, le quotidien Haaretz affirme qu'il n'y a aucune raison de semer la panique, mais qu'il s'agit d'une technique dans laquelle le chef du gouvernement israélien est passé maître au cours des dernières années. L'éditorialiste le souligne, il ne faut pas que la menace de l'État islamique permette à Benjamin Netanyahou d'enterrer ce qui est le véritable problème, la négociation avec les Palestiniens pour un accord juste et durable.
Alors Daesh toujours, Alexandre, plusieurs éditoriaux s'intéressent au rôle de la Turquie dans cette affaire.
Et là aussi, on utilise de l'anglais dans la presse arabe pour parler du Dr. Jekyll and Mr. Hyde, du nom du fameux film. Et donc, selon eux, Ankara a une double face. D'un côté, elle participe à cette coalition, mais en réalité aussi, et bien avant, elle a participé activement au renforcement de Daesh, en hommes et en armes, qui passait, selon les journalistes, forcément par la frontière turco-syrienne, avant de finir en Irak. Alors, une Turquie dont les échanges économiques avec la Syrie sous la coupe de Daesh ont augmenté. Un journaliste parle même d'une politique de pétrole contre armement. Selon lui, Daesh exporte vers la Turquie le pétrole syrien et irakien à moins de $10 le baril.
Et puis Alexandre, beaucoup d'interrogations encore dans les journaux arabes à propos de la montée de la tension, cette fois entre les Palestiniens du Hamas et du Fatah.
Oui, selon les journaux arabes, ce sont les déclarations d'un responsable du Hamas qui ont mis le feu aux poudres. Moussa Abou Mazou a en effet déclaré à la chaîne de télévision palestinienne que le Hamas pourrait engager des négociations directes avec Israël. Une trahison, selon des responsables du Fatah. Donc la réconciliation palestinienne aura été éphémère, conclut un éditorialiste.
Alors dans ce contexte, Michel Paul, que penser de ce mouvement de réservistes d'une unité d'élite de Tzahal qui se déclare objecteur de conscience?
Oui, c'est à la fois dans Yediot Aharonot et dans Mariv, les objecteurs de conscience d'une unité d'élite des renseignements militaires, l'unité 8-200 qui est chargée de la lutte cybernétique, 43 officiers, sous-officiers et hommes du rang, tous réservistes de cette unité, signent une lettre dans laquelle ils affirment qu'ils refusent toute fonction qui renforce et perpétue l'occupation de territoires palestiniens. Et c'est là à la suite de l'opération israélienne à Gaza cet été.
Et puis une controverse, Michel, à propos d'une nouvelle arme anti-émeute utilisée par la police israélienne.
Oui, c'est un dossier publié par le quotidien Haaretz après les balles en caoutchouc. La nouvelle arme utilisée par la police israélienne pour disperser les manifestations, eh bien, c'est une balle en mousse. Le journal conclut qu'il s'agit de munitions particulièrement dangereuses. Mohamed Sinokrot, un Palestinien de 16 ans, est effectivement mort après avoir été touché à la tête par une balle de ce genre.
Un dossier encore, Michel, sur le boycottage des produits en provenance des colonies de peuplement.
Ce sont deux journalistes de Mariv qui se sont rendus dans des entreprises, dans des colonies de peuplement en Cisjordanie, des entreprises visées par le boycottage européen auprès d'agriculteurs qui exportent des dattes, des viticulteurs dont les vins ont été primés en Europe et aussi des fabricants de machines à soda. Eh bien, les conséquences se font sentir, mais les victimes ne sont pas seulement les habitants des colonies, mais aussi, comme le souligne l'article, les Palestiniens qui travaillent pour ces entreprises.
Un mot encore, Alexandre, les journaux égyptiens et soudanais réveillent un vieux différend frontalier entre Le Caire et Khartoum.
Oui, un différend qui remonte à l'indépendance du Soudan en 1956. Le Soudan, rappelons-le, était jusque-là un condominium égypto-britannique. Et donc, il s'agit de Halaib, qui est un triangle de 20 000 km² sur la mer Rouge, entre l'Égypte et le Soudan. Alors, pour l'instant, c'est un territoire pauvre, avec des habitants qui sont pêcheurs ou nomades. Mais la présence hypothétique encore de pétrole ravive sporadiquement les tensions et, une fois de plus, l'Égypte et le Soudan semblent à couteau tiré.
Oui, encore une question de pétrole. Pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Bien, c'est la photo de Formule 1 dans les rues de Jérusalem. À nouveau, cette année, Eric, les bolides se préparent à attirer la foule sous les remparts de la vieille ville.
Mais ce n'est pas un grand prix, vous nous avez dit. Merci Michel, merci Alexandre, merci également à Richard Rifonneau qui a réalisé cette émission. Vous pouvez retrouver Orient Hebdo sur le site www.rfi.fr, à la rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.